Chapitre 5. L'Angleterre devait-elle faire la paix avec Bonaparte à son avènement au consulat? Lorsque le général Bonaparte fut nommé consul, ce qu'on attendait de lui, c'était la paix. La nation était fatiguée de sa longue lutte et sûre alors d'obtenir son indépendance avec la barrière du Rhin et des Alpes, elle ne souhaitait que la tranquillité. Certes, elle s'adressait mal pour l'obtenir. Cependant, le premier consul fit des démarches pour se rapprocher de l'Angleterre et le ministère d'alors s'y refusa. Peut-être eut-il tort, car 2 ans après, lorsque Bonaparte avait déjà assuré sa puissance par la victoire de Marengo, le gouvernement anglais se vit dans la nécessité de signer le traité d'Amiens, qui, sous tous les rapports, était plus désavantageux que celui qu'on aurait obtenu dans un moment où Bonaparte voulait un succès nouveau, la paix avec l'Angleterre. Cependant, je ne partage pas l'opinion de quelques personnes qui prétendent que si le ministère anglais avait alors accepté les propositions de la France, Bonaparte eût dès cet instant adopté un système pacifique. Rien n'était plus contraire à sa nature et à son intérêt. Il ne sait vivre que dans l'agitation. Et si quelque chose peut plaider pour lui auprès de ceux qui réfléchissent sur l'être humain, c'est qu'il ne respire librement que dans une atmosphère volcanique. Son intérêt aussi lui conseillait la guerre. Tout homme devenu chef unique d'un grand pays autrement que par l'hérédité peut difficilement s'y maintenir s'il ne donne pas à la nation de la liberté ou de la gloire militaire, s'il n'est pas Washington ou un conquérant. Or, comme il était difficile de ressembler moins à Washington que Bonaparte, il ne pouvait établir et conserver un pouvoir absolu qu'en étourdissant le raisonnement, qu'en présentant tous les 3 mois aux Français une perspective nouvelle, afin de suppléer, par la grandeur et la variété des événements, à l'émulation honorable, mais tranquille, dont les peuples libres sont appelés à jouir. Une anecdote peut servir à faire connaître comment, dès les premiers jours de l'avènement de Bonaparte au consulat, ses alentours savaient déjà de quelle façon servile il fallait s'y prendre pour lui plaire. Parmi les arguments allégués par Lord Grenville pour ne pas faire la paix avec Bonaparte, il y avait que le gouvernement du premier consul tenant à lui seul, on ne pouvait fonder une paix durable sur la vie d'un homme. Ces paroles irritèrent le premier consul. Il ne pouvait souffrir qu'on discutât la chance de sa mort. En effet, quand on ne rencontre plus d'obstacles dans les hommes, on s'indigne contre la nature qui seule est inflexible. Il nous est, à nous autres, plus facile de mourir. Nos ennemis, souvent même nos amis, tout notre sort enfin nous y prépare. L'homme chargé de réfuter dans le Moniteur la réponse de Lord Grenville se servit de ces expressions. « Quant à la vie et à la mort de Bonaparte, ces choses-là, milord, sont au-dessus de votre portée. » Ainsi, le peuple de Rome appelait les empereurs votre éternité. Bizarre destinée de l'espèce humaine, condamnée à rentrer dans le même cercle par les passions, tandis qu'elle avance toujours dans la carrière des idées. Le traité d'Amiens fut conclu lorsque les succès de Bonaparte en Italie le rendaient déjà maître du continent. Les conditions en étaient très désavantageuses pour les Anglais. Et, pendant l'année qu'il subsista, Bonaparte se permit des empiétements tellement redoutables qu'après la faute de signer ce traité, celle de ne pas le rompre eût été la plus grande. À cette époque, en 1803, malheureusement pour l'esprit de liberté en Angleterre et par conséquent sur le continent, dont elle est le fanal, le parti de l'opposition, ayant à sa tête M. Fox, fit entièrement fausse route par rapport à Bonaparte. Et dès lors, ce parti, si honorable d'ailleurs, a perdu dans la nation l'ascendant qu'il eût été désirable à d'autres égards de lui voir conserver. C'était déjà beaucoup trop que d'avoir défendu la Révolution française sous le règne de la Terreur. Mais quelle faute, s'il se peut, plus dangereuse encore, que de considérer Bonaparte comme tenant aux principes de cette Révolution dont il était le plus habile destructeur. Sheridan, qui, par ses lumières et ses talents, avait de quoi faire la gloire de l'Angleterre et la sienne propre, montra clairement à l'opposition le rôle qu'elle devait jouer dans le discours éloquent qu'il prononça à l'occasion de la paix d'Amiens. La situation de Bonaparte et l'organisation de son pouvoir sont telles, dit Sheridan, qu'il doit entrer avec ses sujets dans un terrible échange. Il faut qu'il leur promette de les rendre les maîtres du monde, afin qu'ils consentent à être ses esclaves. Si tel est son but, contre quelle puissance doit-il tourner ses regards inquiets, si ce n'est contre la Grande-Bretagne ? Quelques-uns ont prétendu qu'il ne voulait avoir avec nous d'autre rivalité que celle du commerce. Heureux cet homme, si des vues administratives étaient entrées dans sa tête. Mais qui pourrait le croire ? Il suit l'ancienne méthode des taxes exagérées et des prohibitions. Toutefois, il voudrait arriver par un chemin plus court à notre perte. Peut-être se figure-t-il que ce pays, une fois subjugué, il pourra transporter chez lui notre commerce, nos capitaux et notre crédit, comme il a fait venir à Paris les tableaux et les statues d'Italie. Mais ses ambitieuses espérances seraient bientôt trompées. Ce crédit disparaîtrait sous la griffe du pouvoir. Ses capitaux s'enfonceraient dans la terre, s'ils étaient foulés aux pieds d'un despote. Et ses entreprises commerciales seraient sans vigueur en présence d'un gouvernement arbitraire. S'il écrit sur ses tablettes des notes marginales relatives à ce qu'il doit faire des divers pays qu'il a soumis ou qu'il veut soumettre, le texte entier est consacré à la destruction de notre patrie. C'est sa première pensée en s'éveillant. C'est sa prière à quelque divinité qu'il l'adresse, à Jupiter ou à Mahomet, au dieu des batailles ou à la déesse de la raison. Une importante leçon doit être tirée de l'arrogance de Bonaparte. Il se dit l'instrument dont la Providence a fait le choix pour rendre le bonheur à la Suisse et la splendeur et l'importance à l'Italie. Et nous aussi, nous devons le considérer comme un instrument dont la Providence a fait choix pour nous rattacher davantage, s'il se peut, à notre Constitution, pour nous faire sentir le prix de la liberté qu'elle nous assure, pour anéantir toutes les différences d'opinion en présence de cet intérêt. Enfin, pour avoir sans cesse présent à l'esprit que tout homme qui arrive en Angleterre, en sortant de France, croit échapper d'un donjon pour respirer l'air et la vie de l'indépendance. La liberté triompherait aujourd'hui dans l'opinion universelle si tous ceux qui se sont ralliés à ce noble espoir avaient bien vu, dès le commencement du règne de Bonaparte, que le premier des contre-révolutionnaires, et le seul redoutable alors, c'était celui qui se revêtait des couleurs nationales pour rétablir impunément tout ce qui avait disparu devant elle. Les dangers dont l'ambition du premier consul menaçait l'Angleterre, sont signalés avec autant de vérité que de force dans le discours que nous venons de citer. Le ministère anglais est donc amplement justifié d'avoir recommencé la guerre. Mais quoi qu'il ait pu, dans la suite, prêter plus ou moins d'appui aux adversaires personnels de Bonaparte, il ne s'est jamais permis d'autoriser un attentat contre sa vie. Une telle idée ne vint pas au chef d'un peuple de chrétiens. Bonaparte courut un grand danger par la machine infernale, assassina le plus coupable de tous, puisqu'il menaçait la vie d'un grand nombre d'autres personnes en même temps que celle du consul. Mais le ministère anglais n'entra point dans cette conspiration. Il y a lieu de croire que les chouans c'est-à-dire les Jacobins du parti aristocrate, en furent seuls coupables. À cette occasion, pourtant, on déporta 130 révolutionnaires, bien qu'ils n'eussent pris aucune part à la machine infernale. Mais il parut simple alors de profiter du trouble que causait cet événement pour se débarrasser de tous ceux qu'on voulait proscrire. Singulière façon, il faut le dire, de traiter l'espèce humaine. « Il s'agissait d'hommes odieux, s'écriera-t-on. Cela se peut. Mais qu'importe, n'apprendra-t-on jamais en France qu'il n'y a point d'acception de personne devant la loi ? Les agents de Bonaparte s'étaient fait alors le bizarre principe de frapper les deux parties à la fois, lorsque l'un des deux avait tort. Ils appelaient cela de l'impartialité. Vers ce temps, un homme, auquel il faut épargner son nom, proposa de brûler vif ceux qui seraient convaincus d'un attentat contre la vie du premier consul. La proposition des supplices cruels semblait appartenir à d'autres siècles que le nôtre, mais la flatterie ne s'en tient pas toujours à la platitude, et la bassesse est très facilement féroce. Chapitre 6 de l'inauguration du Concordat à Notre-Dame. À l'époque de l'avènement de Bonaparte, les partisans les plus sincères du catholicisme, après avoir été si longtemps victimes de l'inquisition politique, n'aspiraient qu'à une parfaite liberté religieuse. Le vœu général de la nation se bornait à ce que toute persécution cessât désormais à l'égard des prêtres, et qu'on n'exigea plus d'eux aucun genre de serment, afin que l'autorité ne se mêlât en rien des opinions religieuses de personne. Ainsi donc, le gouvernement consulaire eut contenté l'opinion en maintenant en France la tolérance absolue, telle qu'elle existe en Amérique, chez un peuple dont la piété constante et les mœurs sévères qui en sont la preuve ne sauraient être mises en doute. Mais le premier consul ne s'occupait point de ces saintes pensées. Il savait que, si le clergé reprenait une consistance politique, son influence ne pouvait seconder que les intérêts du despotisme. Et ce qu'il voulait, c'était préparer les voies pour son arrivée au trône. Il lui fallait un clergé comme des chambellans, comme des titres, comme des décorations, enfin comme toutes les anciennes cariatides du pouvoir. Et lui seul était en mesure de les relever. L'on s'est plaint du retour des vieilles institutions. Et l'on ne devrait pas oublier que Bonaparte en était la véritable cause. C'est lui qui a recomposé le clergé pour le faire servir à ses desseins. Les révolutionnaires, qui était encore redoutable il y a 14 ans, n'aurait jamais souffert que l'on redonnât ainsi une existence politique aux prêtres, si un homme qu'ils considéraient, à quelques égards, comme l'un d'entre eux, en leur présentant un concordat avec le pape, ne leur eût pas assuré que c'était une mesure très profondément combinée et qui servirait au maintien des institutions nouvelles. Les révolutionnaires, à quelques exceptions près, sont plus violents que rusés, et par cela même on les flatte quand on les traite en hommes habiles. Bonaparte assurément n'est pas religieux, et l'espèce de superstition dont on a pu découvrir quelques traces dans son caractère tient uniquement au culte de lui-même. Il croit à sa fortune, et ce sentiment s'est manifesté en lui de diverses manières. Mais depuis le mahométisme jusqu'à la religion des pères du désert, depuis la loi agraire jusqu'à l'étiquette de la cour de Louis XIV, son esprit est prêt à concevoir et son caractère à exécuter ce que la circonstance peut exiger. Toutefois, son penchant naturel étant pour le despotisme, ce qui le favorise lui plaît. Il aurait aimé l'ancien régime en France plus que personne, s'il avait pu persuader au monde qu'il descendait en droite ligne de Saint-Louis. Il a souvent exprimé le regret de ne pas régner dans un pays où le monarque fût en même temps le chef de l'Église, comme en Angleterre et en Russie. Mais trouvant encore le clergé de France dévoué à la cour de Rome, il voulut négocier avec elle. Un jour, il assurait au prélat que, dans son opinion, il n'y avait que la religion catholique de vraiment fondée sur les traditions anciennes. Et d'ordinaire, il leur montrait sur ce sujet quelque érudition acquise de la veille. Puis, se trouvant avec des philosophes, il dit à Cabanis : « Savez-vous ce que c'est que le concordat que je viens de signer ? C'est la vaccine de la religion. Dans 50 ans, il n'y en aura plus en France. » Ce n'était ni la religion, ni la philosophie qui lui importait, dans l'existence d'un clergé tout à fait soumis à ses volontés. Mais ayant entendu parler de l'alliance entre l'autel et le trône, il commença par relever l'autel. Aussi, en célébrant le concordat, fit-il, pour ainsi dire, la répétition habillée de son couronnement. Il ordonna, au mois d'avril 1802, une grande cérémonie à Notre-Dame. Il y alla avec toute la pompe royale et nomma pour l'orateur de cette inauguration qui ? L'archevêque d'Aix, le même qui avait fait le sermon du sacre à la cathédrale de Reims, le jour où Louis XVI fut couronné. Deux motifs le déterminèrent à ce choix. L'espoir ingénieux que plus il imitait la monarchie, plus il faisait naître l'idée de l'en nommer le chef. Et le dessein perfide de déconsidérer l'archevêque d'Aix, assez pour le mettre entièrement dans sa dépendance et pour donner à tous la mesure de son ascendant. Toujours il a voulu, quand cela se pouvait, qu'un homme connu fît quelque chose d'assez blâmable, en s'attachant à lui pour être perdu dans l'estime de tout autre parti que le sien. Brûler ses vaisseaux, c'était lui sacrifier sa réputation. Il voulut faire des hommes une monnaie, qui ne reçut sa valeur que de l'empreinte du maître. La suite a prouvé que cette monnaie savait rentrer en circulation avec une autre effigie. Le jour du concordat, Bonaparte se rendit à l'église de Notre-Dame dans les anciennes voitures du roi, avec les mêmes cochers, les mêmes valets de pied marchant à côté de la portière. Il se fit dire, jusque dans le moindre détail, toute l'étiquette de la cour. Et bien que premier consul d'une république, il s'appliqua tout cet appareil de la royauté. Rien, je l'avoue, ne me fit éprouver un sentiment d'irritation pareil. Je m'étais renfermé dans ma maison pour ne pas voir cet odieux spectacle. Mais j'y entendais les coups de canon qui célébraient la servitude du peuple français. Car y avait-il quelque chose de plus honteux que d'avoir renversé les antiques institutions royales, entourées au moins de nobles souvenirs, pour reprendre ces mêmes institutions sous des formes de parvenus et avec les fers du despotisme? C'était ce jour-là qu'on pouvait adresser aux Français ces belles paroles de Milton à ses compatriotes. Nous allons devenir la honte des nations libres et le jouet de celles qui ne le sont pas. Est-ce là, diront les étrangers, cet édifice de liberté que les Anglais se glorifiaient de bâtir? Ils n'en ont fait tout juste que ce qu'il fallait pour se rendre à jamais ridicule aux yeux de l'Europe entière. Les Anglais, du moins, ont appelé de cette prédiction. Au retour de Notre-Dame, le premier consul, se trouvant au milieu de ses généraux, leur dit « N'est-il pas vrai qu'aujourd'hui tout paraissait rétabli dans l'ancien ordre ?»« Oui, répondit noblement l'un d'entre eux, excepté 2 millions de Français qui sont morts pour la liberté et qu'on ne peut faire revivre. » D'autres millions ont péri depuis, mais pour le despotisme. On accuse amèrement le Français d'être irréligieux. Mais l'une des principales causes de ce funeste résultat, c'est que les différents partis, depuis 25 ans, ont toujours voulu diriger la religion vers un but politique, et rien ne dispose moins à la piété que d'employer la religion pour un autre projet qu'elle-même. Plus les sentiments sont beaux par leur nature, plus ils inspirent de répugnance quand l'ambition et l'hypocrisie s'en emparent. Lorsque Bonaparte fut empereur, il nomma le même archevêque d'Aix, dont nous venons de parler, à l'archevêché de Tours, et celui-ci, dans un de ses mandements, exhorta la nation à reconnaître Napoléon comme souverain légitime de la France. Le ministre des cultes, se promenant alors avec un de ses amis, lui montra le mandement et lui dit « Voyez, il appelle l'empereur grand, généreux, illustre, tout cela est fort bien, mais c'est légitime qui était le mot important dans la bouche d'un prêtre. » Pendant 12 ans, à dater du concordat, les ecclésiastiques de tous les rangs n'ont laissé passer aucune occasion de louer Bonaparte à leur manière, c'est-à-dire en l'appelant l'envoyé de Dieu, l'instrument de ses décrets, le représentant de la Providence sur la terre. Les mêmes prêtres ont depuis prêché sans doute une autre doctrine. Mais comment veut-on qu'un clergé, toujours aux ordres de l'autorité, quelle qu'elle soit, ajoute à l'ascendant de la religion sur les âmes ? Le catéchisme, qui a été reçu dans toutes les églises pendant le règne de Bonaparte, menaçait des peines éternelles quiconque n'aimerait pas ou ne défendrait pas la dynastie de Napoléon. Si vous n'aimez pas Napoléon et sa famille, disait ce catéchisme, qui à cela près est celui de Bossuet, que vous en arrivera-t-il ? Réponse : alors nous encourons la damnation éternelle. Fallait-il croire toutefois que Bonaparte disposerait de l'enfer dans l'autre monde, parce qu'il en donnait l'idée dans celui-ci ? En vérité, les nations n'ont de piété sincère que dans les pays où la doctrine de l'Église n'a point de rapport avec les dogmes politiques, dans les pays où les prêtres n'exercent point de pouvoir sur l'État. Dans les pays, enfin, où l'on peut aimer Dieu et la religion chrétienne de toute son âme, sans perdre et surtout sans obtenir aucun avantage terrestre par la manifestation de ce sentiment. Chapitre 7. Dernier ouvrage de M. Necker sous le consulat de Bonaparte. M. Necker eut un entretien avec Bonaparte à son passage en Italie par le Mont-Saint-Bernard, peu de temps avant la bataille de Marengo. Pendant cette conversation qui dura 2 heures, le premier consul fit à mon père une impression assez agréable par la sorte de confiance avec laquelle il lui parla de ses projets futurs. Ainsi donc, aucun ressentiment personnel n'animait M. Necker contre Bonaparte, quand il publia son livre intitulé « Dernières vues de politique et de finances ». La mort du duc d'Enghien n'avait point encore eu lieu. Beaucoup de gens espéraient un grand bien du gouvernement de Bonaparte. Et M. Necker était sous 2 rapports dans sa dépendance. Soit parce qu'il voulait bien désirer que je ne fusse pas banni de Paris, dont j'aimais beaucoup le séjour, soit parce que son dépôt de 2 millions était encore entre les mains du gouvernement, c'est-à-dire du premier consul. Mais M. Necker s'était fait une magistrature de vérité dans sa retraite, dont il ne négligeait les obligations par aucun motif. Il souhaitait pour la France l'ordre et la liberté, la monarchie et le gouvernement représentatif. Et toutes les fois qu'on s'écartait de cette ligne, il croyait de son devoir d'employer son talent d'écrivain et ses connaissances comme homme d'État pour essayer de ramener les esprits vers le but. Toutefois, regardant Bonaparte alors comme le défenseur de l'ordre et comme celui qui préservait la France de l'anarchie, il l'appela l'homme nécessaire et revint dans plusieurs endroits de son livre à vanter ses talents avec la plus haute estime. Mais ces éloges n'apaisèrent pas le premier consul. M. Necker avait touché au point sensible de son ambition en discutant le projet qu'il avait formé d'établir une monarchie en France, de s'en faire le chef et de s'entourer d'une noblesse de sa propre création. Bonaparte ne voulait pas qu'on annonçât ce dessein avant qu'il fût accompli. Encore moins permettait-il qu'on en fît sentir tous les défauts. Aussi, dès que cet ouvrage parut, les journalistes reçurent-ils l'ordre de l'attaquer avec le plus grand acharnement. Bonaparte signala M. Necker comme le principal auteur de la Révolution, car s'il aimait cette Révolution comme l'ayant placée sur le trône, il la haïssait par son instinct de despote. Il aurait voulu les faits sans la cause. D'ailleurs, son habileté en fait de haine lui avait très bien suggéré que M. Necker, souffrant plus que personne des malheurs qui avaient frappé tant de gens respectables en France, serait profondément blessé si, de la manière même la plus injuste, on le désignait comme les ayant préparés. Aucune réclamation pour la restitution du dépôt de mon père ne fut admise à dater de la publication de son livre en 1802. Et le premier consul déclara, dans le cercle de sa cour, qu'il ne me laisserait plus revenir à Paris, puisque, disait-il, j'avais porté des renseignements si faux à mon père sur l'état de la France. Certes, mon père n'avait pas besoin de moi pour aucune chose dans ce monde, excepté, je l'espère, pour mon affection. Et quand j'arrivais à Copé, son manuscrit était déjà livré à l'impression. Il est curieux d'observer ce qui, dans ce livre, put exciter si vivement la colère du premier consul. Dans la première partie de son ouvrage, M. Necker analysait la constitution consulaire telle qu'elle existait alors, et il approfondissait aussi l'hypothèse de la royauté constituée par Bonaparte, ainsi qu'on pouvait la prévoir. Il posait en maxime qu'il n'y a point de système représentatif sans élection directe du peuple, et que rien n'autorisait à dévier de ce principe. Examinant ensuite l'institution aristocratique servant de barrière entre la représentation nationale et le pouvoir exécutif, M. Necker jugea d'avance le Sénat conservateur, tel qu'il s'est montré depuis, comme un corps à qui l'on renvoyait tout et qui ne pouvait rien, un corps qui recevait des appointements chaque premier du mois de ce gouvernement qu'il était censé contrôler. Les sénateurs devaient nécessairement n'être que des commentateurs de la volonté consulaire. Une assemblée nombreuse s'associait à la responsabilité des actes d'un seul, et chacun se sentait plus à l'aise pour s'avilir à l'ombre de la majorité. M. Necker prédit ensuite l'élimination du tribunat, telle qu'elle eut lieu sous le consulat même. « Les tribuns y penseront à deux fois, dit-il, avant de se rendre importuns, avant de s'exposer à déplaire à un Sénat qui doit chaque année fixer leur sort politique et les perpétuer ou non dans leur place. La Constitution donnant au Sénat conservateur le droit de renouveler tous les ans le corps législatif et le tribunat par cinquième n'explique point de quelle manière l'opération s'exécutera. Elle ne dit point si le cinquième, qui devra faire place à un autre cinquième, sera déterminé par le sort ou par la désignation arbitraire du Sénat. On ne peut mettre en doute qu'à commencer de l'époque où un droit d'ancienneté s'établira, le cinquième de première date ne soit désigné pour sortir à la Révolution de 5 années, et chacun des autres cinquièmes dans ce même ordre de rang. Mais la question est encore très importante en l'appliquant seulement aux membres du tribunat et du corps législatif, choisis tous à la fois au moment de la Constitution. Et si le Sénat, sans recourir au sort, s'arroge le droit de désigner à sa volonté le cinquième qui devra sortir chaque année pendant 5 ans, c'est ce qu'il fit. La liberté des opinions sera gênée dès à présent d'une manière très puissante. C'est véritablement une singulière disparate que le pouvoir donné au Sénat conservateur de faire sortir du tribunat qui bon lui semble, jusqu'à la concurrence d'un cinquième du total, et de n'être autorisé lui-même à agir comme conservateur, comme défenseur de la Constitution, que sur l'avertissement et l'impulsion du tribunat. Quelle supériorité dans un sens, quelle infériorité dans l'autre. Rien ne paraît avoir été fait d'ensemble. Sur ce point, j'oserais n'être pas de l'avis de mon père. Il y avait un ensemble dans cette organisation incohérente. Elle avait constamment et artistement pour but de ressembler à la liberté et d'amener la servitude. Les constitutions mal faites sont très propres à ce résultat. Mais cela tient toujours à la mauvaise foi du fondateur. Car tout esprit sincère, aujourd'hui, sait en quoi consistent les ressorts naturels et spontanés de la liberté. Passant ensuite à l'examen du corps législatif muet, dont nous avons déjà parlé, M. Necker dit à propos de l'initiative des lois : le gouvernement, par une attribution exclusive, doit seul proposer toutes les lois. Les Anglais se croiraient perdus comme hommes libres si l'exercice d'un pareil droit était enlevé à leur parlement, si la prérogative la plus importante et la plus civique sortait jamais de ses mains. Le monarque lui-même n'y participe qu'indirectement et par la médiation des membres de la Chambre haute et de la Chambre des communes qui sont en même temps ses ministres. Les représentants de la nation, qui de toutes les parties d'un royaume ou d'une république, viennent se réunir tous les ans dans la capitale, et qui se rapprochent encore de leur foyer pendant l'ajournement des sessions, recueillent nécessairement des notions précieuses sur les améliorations dont l'administration de l'État est susceptible. Le pouvoir, d'ailleurs, de proposer des lois est une faculté politique féconde en pensée sociale et d'une utilité universelle. Il faut pour l'exercer un esprit investigateur, une âme patriotique, tandis que pour accepter ou refuser une loi, le jugement seul est nécessaire. C'était l'office des anciens parlements de France, et, réduits qu'ils étaient à cette fonction, ne pouvant jamais juger des objets qu'un à un, ils n'ont jamais acquis des idées générales. Le tribunat était institué pour dénoncer les actes arbitraires en tout genre, les emprisonnements, les exils, les atteintes portées à la liberté de la presse. M. Necker montre comme ce tribunat, tenant son élection du Sénat et non du peuple, n'avait point assez de force pour un tel ministère. Néanmoins, comme le premier consul voulait lui donner beaucoup d'occasions de se plaindre, il aima mieux le supprimer, quelque apprivoisé qu'il fût. Son nom seul était encore trop républicain pour les oreilles de Bonaparte. C'est ainsi que M. Necker s'exprime ensuite sur la responsabilité des agents du pouvoir. Indiquons cependant une disposition d'une conséquence plus réelle, mais dans un sens absolument opposé aux idées de responsabilité, et destiné à déclarer indépendants les agents du gouvernement. La Constitution consulaire dit que les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État. En ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. Observons d'abord qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État ou en vertu d'une décision du Premier Consul sont deux choses semblables, car le Conseil ne délibère de lui-même sur aucun objet. Le Consul qui nomme et révoque à sa volonté les membres de ce Conseil prend leurs avis, ou tous réunis, ou le plus souvent divisé par section, selon la nature des objets. Et en dernier résultat, sa propre décision fait règle. Mais peu importe. L'objet principal, dans la disposition que j'ai rappelée, c'est l'affranchissement des agents du gouvernement de toute espèce d'inspection et de poursuite de la part des tribunaux, sans le consentement du gouvernement lui-même. Ainsi qu'un receveur, un répartiteur d'impôts prévarique audacieusement, prévarique avec scandale. Le premier consul détermine avant tout s'il y a lieu à accusation. Il jugera seul de même si d'autres agents de son autorité méritent d'être pris à partie pour aucun abus de pouvoir, n'importe que ces abus soient relatifs aux contributions, à la corvée, aux subventions de toute espèce, aux logements militaires et aux enrôlements forcés désignés sous le nom de conscription. Jamais un gouvernement modéré n'a pu subsister à de telles conditions. Je laisse là l'exemple de l'Angleterre où de pareilles lois politiques seraient considérées comme une dissolution absolue de la liberté. Mais je dirais que, sous l'ancienne monarchie française, jamais un parlement, ni même une justice inférieure, n'aurait demandé le consentement du prince pour sévir contre une prévarication connue de la part d'un agent public, contre un abus de pouvoir manifeste. Et un tribunal particulier, sous le nom de Cour des aides, était juge ordinaire des droits et des délits fiscaux, et n'avait pas besoin d'une permission spéciale pour acquitter ce devoir dans toute son étendue. Enfin, c'est une expression trop vague que celle d'agent du gouvernement. L'autorité, dans son immense circonférence, peut avoir des agents ordinaires et des agents extraordinaires. Une lettre d'un ministre, d'un préfet, d'un lieutenant de police suffit pour créer un agent. Et si dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tous hors de l'atteinte de la justice, à moins d'une permission spéciale de la part du prince, le gouvernement aura, dans sa main, des hommes qu'un tel affranchissement rendra fort audacieux, et qui seront encore à couvert de la honte de leur dépendance directe de l'autorité suprême. Quels instruments de choix pour la tyrannie ! Ne dirait-on pas que M. Necker, écrivant ces paroles en 1802, prévoyait ce que l'empereur a fait depuis de son conseil d'État ? Nous avons vu les fonctions de l'ordre judiciaire passer par degrés dans les mains de ce pouvoir administratif, sans responsabilité comme sans borne. Nous l'avons vu même usurper les attributions législatives, et ce divan n'avait à redouter que son maître. M. Necker, après avoir prouvé qu'il n'y avait point de république en France sous le gouvernement consulaire, on conclut aisément que l'intention de Bonaparte était d'arriver à la royauté. Et c'est alors qu'il développe, avec une force extrême, la difficulté d'établir une monarchie tempérée, sans avoir recours aux grands seigneurs déjà existants, et qui d'ordinaire sont inséparables d'un prince d'une ancienne race. La gloire militaire peut certainement tenir lieu d'ancêtre. Elle agit plus vivement même sur l'imagination que les souvenirs. Mais comme il faut qu'un roi s'entoure des rangs supérieurs, il est impossible de trouver assez de citoyens illustres par leurs exploits pour qu'une aristocratie toute nouvelle puisse servir de barrière à l'autorité qui l'aurait créée. Les nations ne sont pas des Pygmalions qui adorent leur propre ouvrage. Et le Sénat, composé d'hommes nouveaux, choisis dans une foule d'hommes pareils, ne se sentait pas de force et n'inspirait pas de respect. Écoutons sur ce sujet les propres paroles de M. Necker. Elles s'appliquent à la Chambre des Pairs, telle qu'on la vit improvisée par Bonaparte en 1815. Elles s'appliquent surtout au gouvernement militaire de Napoléon, qui était pourtant bien loin en 1802, d'être établi comme nous l'avons vu depuis. Si donc, ou par une révolution politique, ou par une révolution dans l'opinion, vous aviez perdu les éléments productifs des grands seigneurs. Considérez-vous comme ayant perdu les éléments productifs de la monarchie héréditaire tempérée, et tournez vos regards, fût-ce avec peine, vers un autre ordre social. Je ne crois pas que Bonaparte lui-même, avec son talent, avec son génie, avec toute sa puissance, pût venir à bout d'établir en Europe, aujourd'hui, une monarchie héréditaire tempérée. C'est une opinion bien importante. Voici mes motifs, qu'on juge. Je fais observer auparavant que cette opinion est contraire à ce que nous avons entendu répéter après l'élection de Bonaparte. Voilà la France, disait-on, qui va se reprendre au gouvernement d'un seul. C'est un point de gagné pour la monarchie. Mais que signifient de telles paroles ? Rien du tout, car nous ne voulons pas parler indifféremment de la monarchie élective ou héréditaire, despotique ou tempérée, mais uniquement de la monarchie héréditaire et tempérée. Et sans doute que le gouvernement d'un prince de l'Asie, le premier qu'on voudra nommer, est plus distinct de la monarchie d'Angleterre que la République américaine. Il est un moyen étranger aux idées républicaines, étranger aux principes de la monarchie tempérée, et dont on peut se servir pour fonder et pour soutenir un gouvernement héréditaire. C'est le même qui introduisit, qui perpétua l'Empire dans les grandes familles de Rome, les Jules, les Claudiens, les Flaviens, et qui servit ensuite à renverser leur autorité. C'est la force militaire, les prétoriens, les armées de l'Orient et de l'Occident. Dieu garde la France d'une semblable destinée. Quelle prophétie ! Si je suis revenu plusieurs fois sur le mérite singulier qu'a eu M. Necker dans ses ouvrages politiques de prédire les événements, c'est pour montrer comment un homme très versé dans la science des constitutions peut connaître d'avance leurs résultats. On a beaucoup dit en France que les constitutions ne signifiaient rien et que les circonstances étaient tout. Les adorateurs de l'arbitraire doivent parler ainsi, mais c'est une assertion aussi fausse que servile. L'irritation de Bonaparte fut très vive à la publication de cet ouvrage parce qu'il signalait d'avance ses projets les plus chers et ceux que le ridicule pouvait le plus facilement atteindre. Sphinx d'un nouveau genre, c'était contre celui qui devinait ces énigmes que se tournait sa fureur. La considération tirée de la gloire militaire peut, il est vrai, suppléer à tout. Mais un empire fondé sur les hasards des batailles ne suffisait pas à l'ambition de Bonaparte, car il voulait établir sa dynastie, bien qu'il ne pût, de son vivant, supporter que sa propre grandeur. Le consul Lebrun écrivit à M. Necker, sous la dictée de Bonaparte, une lettre où toute l'arrogance des préjugés anciens était combinée avec la rude âpreté du nouveau despotisme. On y accusait aussi M. Necker d'être l'auteur du doublement du tiers, d'avoir toujours le même système de constitution, etc. Les ennemis de la liberté tiennent tous le même langage, bien qu'ils partent d'une situation très différente. On conseillait ensuite à M. Necker de ne plus se mêler de politique et de s'en remettre au premier consul, seul capable de bien gouverner la France. Ainsi les despotes trouvent toujours les penseurs de trop dans les affaires. Le consul finissait en déclarant que moi, fille de M. Necker, je serais exilé de Paris, précisément à cause des dernières vues de politique et de finances publiées par mon père. J'ai mérité depuis, je l'espère, cet exil aussi pour moi-même. Mais Bonaparte, qui se donnait la peine de connaître pour mieux blesser, voulait troubler l'intimité de notre vie domestique, en me représentant mon père comme l'auteur de mon exil. Cette réflexion frappa mon père, qui ne repoussait jamais un scrupule. Mais, grâce au ciel, il a pu s'assurer qu'elle n'approchait pas un instant de moi. Une chose très remarquable dans le dernier ouvrage politique de M. Necker peut être supérieure encore à tous les autres. C'est qu'après avoir combattu dans les précédents avec beaucoup de force le système républicain en France, il examine dans cet écrit, pour la première fois, quelle serait la meilleure forme à donner à ce gouvernement. D'une part, les sentiments d'opposition qui animaient déjà M. Necker contre le despotisme de Bonaparte le portaient à se servir contre lui des seules armes qui pussent encore l'atteindre. D'autre part, dans un moment où le danger d'exalter les esprits n'était pas à redouter, un politique philosophe se plaisait à traiter, dans toute sa vérité, une question très importante. L'idée la plus remarquable de cet examen, c'est que, loin de vouloir rapprocher autant que cela se peut une république d'une monarchie, alors qu'on se décide à la république, il faut au contraire puiser toute sa force dans les éléments populaires. La dignité d'une telle institution ne pouvant reposer que sur l'assentiment de la nation, il faut essayer de faire reparaître sous diverses formes la puissance qui doit, dans ce cas, tenir lieu de toutes les autres. Cette profonde pensée est la base du projet de République, dont M. Necker détaille chaque partie en répétant néanmoins qu'il ne saurait en conseiller l'adoption dans un grand pays. Enfin, il termine son dernier ouvrage par des considérations générales sur les finances. Elle renferme deux vérités essentielles. L'une, que le gouvernement consulaire se trouvait dans une beaucoup meilleure situation à cet égard que celle où le roi de France avait jamais été, puisque d'une part, l'augmentation du territoire accroissait les recettes, et que de l'autre, la réduction de la dette diminuait les dépenses. Que d'ailleurs, les impôts rendaient davantage sans que le peuple fût aussi chargé, parce que les dîmes et les droits féodaux étaient supprimés. Secondement, M. Necker affirmait en 1802 que jamais le crédit ne pourrait exister sans une constitution libre. Non assurément que les prêteurs de nos jours aiment la liberté par enthousiasme, mais le calcul de leur intérêt leur apprend qu'on ne peut se fier qu'à des institutions durables, et non à des ministres des finances qu'un caprice a choisi, qu'un caprice peut écarter, et qui, décidant du juste et de l'injuste au fond de leur cabinet, ne sont jamais éclairés par le grand jour de l'opinion publique. En effet, Bonaparte a soutenu ses finances par le produit des contributions étrangères et par le revenu de ses conquêtes. Mais il n'aurait pu se faire prêter librement la plus faible partie des sommes qu'il recueillait par la force. L'on pourrait conseiller en général aux souverains qui veulent savoir la vérité sur leur gouvernement d'en croire plutôt la manière dont leurs emprunts se remplissent que les témoignages de leurs flatteurs. Bien que dans l'ouvrage de M. Necker, le premier consul ne put trouver que des paroles flatteuses sur sa personne, il lança contre lui, avec une amertume inouïe, les journaux tous à ses ordres. Et depuis cette époque, ce système de calomnie n'a point cessé. Les mêmes écrivains, sous des couleurs diverses, n'ont pas dû varier dans leur haine contre un homme qui a voulu dans les finances l'économie la plus sévère, et dans le gouvernement, les institutions qui forcent à la justice.